ai purtat să-L luăm. Amen. Donc je vous demande de ouvrir votre Bible dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 32. Le livre de Nombre chapitre 32. Nous allons lire le premier 15 versets. Nombre chapitre 32. Le fils de Ruben et le fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Ils virent que le pays de Jézer et le pays de Galaad était un lieu propre pour des troupeaux. Alors le fils de Gad et le fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée et ils leur dirent: Ataroth, Dibon, Jézer, Nimra, Esbon, Eleale, Sebam, Nebo et Béon. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'Assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donnait? Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadès-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée de Eshcol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, « Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voix, excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voix de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui et continuerez de laisser Israël au désert, et vous causerez la perte de tout ce peuple. C'est la parole de Dieu. Nous allons ce soir simplement retenir le verset 6 qui dit « Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici ?»« Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici ?» Avant l'occupation de la terre promise par Israël, la tribu de Ruben et Gad voulaient s'installer sur la terre à l'est de Jourdain. Leur demande et la réponse de Moïse se trouve dans le passage que nous avons lu, Nombre 32, et une application pratique à notre service dans l'Église aujourd'hui. Commençons notre étude par un examen de récit historique dans notre texte en Nombre, et on voit que Ruben et Gad expriment leur désir. C'est quoi leur désir? Ils voulaient rester dans cet endroit où ils sont trouvés fertile et beaucoup de place parce que il avait le justificatif. Il avait la raison à donner pourquoi il voulait pas traverser le Jourdain, pourquoi il voulait pas avancer avec le peuple de Dieu, pourquoi il voulait s'installer là-bas. Il demande permission à Moïse. Donc le justificatif, il s'agissait de deux tribus avec beaucoup de bétail. On voit dans Nombre 32 la première partie. partie, le verset 1, première partie. Ils ont vu que la terre de Jezer et Gilead était bonne pour le bétail. Ils ont donc demandé à recevoir la terre, l'est du Jourdain. Mais c'est quoi le commandement de Dieu? Dieu, il a promis la terre promise à Abraham, à Isaac, à Jacob. Il a fait sortir du pays d'Égypte. Il est en train d'amener tout ce peuple à Canaan. Et à mi-chemin, il voit une terre fertile et quelque chose qui s'attire. Il voulait s'installer là-bas. Parce que ils avaient des bétails. Mais regardez la réponse de Moïse, le verset 6. « Vos frères iront-ils à la guerre pendant que vous êtes assis ici ?» Donc, traversant le fleuve Jourdain, ils devraient combattre avec les ennemis pour acquérir cette terre promise. Et donc, ils savaient qu'il y a une guerre à faire, un combat à faire, mais ces deux tribus-là, ils demandent la permission de rester ici pour occuper de leurs affaires. Comment pourraient-ils être à l'aise alors que leurs frères doivent continuer à battre pour obtenir leur héritage? Le Seigneur, il a promis à son peuple que vous allez hériter cette terre. Je vais vous donner la victoire contre vos ennemis. Mais ces gens-là, ils voulaient rester ici, s'installer ici, et ils refusent d'aller devant. Ils refusent d'avancer. N'est-ce pas avec l'aide de leurs frères des autres tribus que la terre qu'ils désirent est maintenant disponible? Et regardez comment Moïse a vu cette demande, comment il voyait leur demande, leur action décourageait leurs frères qui devraient traverser. Imaginez, 12 tribus devraient traverser, et 2 tribus, ils donnent une raison, ils disent que nous allons rester ici, vous allez avancer. Est-ce que ça ne va pas décourager les 10 autres tribus pour aller? Vous savez, dans l'armée, nous sommes dans le temps de guerre, hein, mais en ce moment, il y a la guerre presque à l'Europe. Et ça suffit de voir les journaux, dans la télé, et nous voyons combien c'est sérieux, ces menaces. Et abandonner son poste, c'est une faute grave dans l'armée. Ça mérite la punition. Et cette action ne serait pas différente de celle rapportée par les 10 espions il y a des années qui a découragé Israël par leur rapport. Si vous, Moïse, il parle de cet épisode où les espions étaient envoyés et des espions qui sont venus, qui sont donné la nouvelle décourageante et comment ils sont péris. Et c'est à susciter la colère de Dieu contre eux. Nous lisons, regardez les versets 10 à 13, le même chapitre, Nombre 32. Ces gens-là, ils sont la promesse, ils se tenant au bord de la promesse, mais refusant d'entrer, refusant d'avancer. Donc, Nombre 32, verset 10, « La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, « Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob, et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephunné, les Kénisiens et Josué, fils de Noun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Donc, Dieu voit très sérieusement ce problème. Mais en fait, en refusant de suivre la loi de Dieu, en refusant d'être avec le peuple de Dieu, en refusant d'aller en avant avec le peuple de Dieu, il détruirait le peuple de Dieu en vérité. Ces choses, il peut détruire le peuple de Dieu. Ça, on voit dans le verset 15, « Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. » Parfois, dans le péché dans le camp d'Israël était très sévèrement puni. Le péché dans l'Église est très sévèrement puni. Il y a quelques semaines, avec le frère Urbain, nous avons vu comment le péché de Nadab et Abihu, comment Dieu l'a très sévèrement puni. Donc Dieu, il a une vision plus globale des choses que les hommes, ils n'ont pas. Et parfois, on trouve des incidents dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 10, 11, il dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Alors que nous étudions ce passage de la parole de Dieu ce soir, nous pouvons et nous devons être en mesure de l'appliquer à notre propre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous vivons dans un contexte de guerre en Europe, comme jamais auparavant, depuis plus de 70 ans. L'Europe, elle réjouit de la paix et jamais vu la guerre, comme les autres continents. La guerre plane au-dessus de nos têtes comme une réalité proche. Certaines choses sont faciles à comprendre seulement quand nous vivons quelque chose de similaire dans notre vie. C'est pourquoi je choisis ce passage ce soir. La plupart d'entre nous appartiennent à une génération qui n'avait jamais été témoin de la guerre de notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre comme application pour notre vie de ce passage? Comme le peuple d'Israël, nous sommes en guerre, mais ce n'est pas la même guerre, je vais parler. Une guerre spirituelle, bien sûr. Mais je ne sais pas combien d'entre nous, on est conscient de cette guerre spirituelle. Nous avons un combat spirituel. Et je vais lire de 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons une guerre contre Satan et les esprits méchants. Éphésiens 6, 10 à 18, nous avons lu que nous avons un combat, nous avons une guerre contre Satan et ses anges. L'armée du Seigneur, c'est l'Église, mène cette bataille alors que ses membres servent dans les domaines tels que l'évangélisation, l'édification du corps de Christ et la bienveillance. Il y a certainement d'autres domaines qu'on peut énumérer ici. Ça peut être le ménage, ça peut être faire quelque chose. Vous savez, le peuple d'Israël, quand il devrait bâtir le tabernacle, le Seigneur, il nommait des personnes qui avaient le talent, qui avaient le don pour fabriquer des choses. Donc chacun, ils sont mis ensemble pour la construction du tabernacle. Et l'Église, c'est pareil. Ce n'est pas fait avec seulement le pasteur ou avec quelques autres personnes. Ce n'est pas une personne dans l'Église qui fait la guerre. Ce n'est pas une personne qui a ce combat spirituel. Mais chacun de ses membres, chacun des personnes, nous avons un combat spirituel. Beaucoup ont défendu la vérité dans le passé. Cette guerre, il continue. Des hommes comme Martin Luther, des hommes et des femmes avant lui et bien après lui. Mais nous avons un temps de paix. Nous réjouissons un temps de paix ici. Nous n'avons pas connu cette époque où des enfants de Dieu sont combattus avec leur vie. Hein. Ils sont donné leur vie. Et souvent, leur combat s'aboutit à la mort. Et le livre, ça nous suffira de tourner les pages de notre histoire chrétienne. Le livre pourrait être très long. Beaucoup a été fait jusqu'à présent. Nous n'allons pas arrêter ici pour nous reposer. Nous sommes en guerre. Et maintenant, la vie chrétienne, elle est devenue très facile qu'on devrait pointer à l'église le dimanche matin. On chante quelques cantiques. On écoute un message. Et même si le message est long, on a le droit de plaigner, de murmurer. Et c'est fini mes devoirs chrétiens. Ce qui nous permet aujourd'hui, c'est connaître la vérité de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Et cette guerre que les chrétiens sont combattus dans le passé nous permet aujourd'hui de connaître Jésus-Christ. Adorer Dieu en esprit et en vérité, surtout adorer et proclamer le Seigneur en toute liberté. Il y a des personnes qui sont combattues pour cette liberté chrétienne, surtout dans notre pays. Sinon, nous n'aurons pas cette liberté que nous réjouissons aujourd'hui. Pour profiter les bénédictions de la famille de Dieu, nous avons cette bénédiction de pouvoir profiter de la famille de Dieu. Mais dans certains autres pays, ils n'ont pas ce privilège, surtout dans les pays où il y a la guerre actuellement, en Russie. Mais cette guerre continue. Le chrétien, un enfant de Dieu, il ne peut se jamais reposer. Il ne peut pas penser que maintenant on est en paix, on va chanter des cantiques, on va aller au ciel. Et en effet, nous aussi, nous nous trouvons au bord de la rivière et nous sommes confrontés à une décision. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous savez, ce peuple d'Israël, ils sont venus jusqu'au Jourdain. Et au bord du Jourdain, ils ont vu ce terrain qui s'est très profitable pour leur bétail, pour s'installer. Ils disent que qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va traverser le Jourdain ou on reste ici? Mais bien souvent dans la vie chrétienne, c'est ça la question que ça nous arrive à poser. Et des choses qui sont très attirantes dans les deux côtés de notre chemin. Si nous prenons cette imagerie de voyage des pèlerins, et il y a des choses attirantes dans les deux côtés de notre chemin. Et on pense à s'installer. On ne veut pas avancer. Notre fleuve Jourdain est cette ligne de démarcation entre suivre notre propre désir, notre confort, de notre volonté, ou suivre la direction et le désir de Dieu. Dieu, il veut nous amener à terre promise. Dieu veut nous amener au bon port. Mais si nous allons vaguer, nous allons voir les choses par ici, par là, et nous n'allons pas suivre le Seigneur, nous l'appellerons la terre de soi et la terre de Dieu. Dieu, il a promis la terre où les enfants d'Israël devraient allait installer et vivre. Il a déjà promis. Mais sur le chemin, il voit la terre où il peut s'installer pour vivre confortablement dans ce monde. Beaucoup de chrétiens connaissent cet endroit. Cet endroit où la vie est facile. Vous savez, la vie, ce n'est pas facile. Mais pour un chrétien, c'est très attirant, n'est-ce pas? Mais quand nous regardons nos concitoyens, nos amis qui vivent comparativement une vie facile, c'est très attirant pour nous. On veut parfois vivre comme eux. On veut vivre comme eux. D'être à l'aise dans ce monde. Mais seuls ceux qui s'aventurent à traverser le fleuve atteindront la terre promise. Cette terre où Dieu veut que son peuple soit. Dieu, il a sa volonté, il a déclaré sa volonté, il a promis qu'il va donner cette terre. Il veut amener son peuple à cet endroit. Mais ici, ces deux tribus de Ruben et Gad, ils veulent s'installer à mi-chemin. Dieu a promis qu'ils allaient là-bas et s'ils obéissaient, il serait avec eux pour guider, pour protéger, pour bénir, mais y aller signifiait sacrifier. Rencontrer les défis, les difficultés, la perte. Et faire son devoir. Et même être persécuté. Et donc il y a le dilemme. C'est quelle est notre position? Nous allons rester l'est de Jourdain ou nous allons traverser le fleuve. Et la parole de Moïse nous est adressée. Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Ici, Moïse ne parle même pas d'aller aux terres promises, mais il y a une guerre avant de aller à la terre promise. Mais Moïse le demande, mais vos frères, les 10 autres tribus, ils vont faire la guerre et vous allez rester ici? C'est pertinent, cette question. En laissant les autres effectuer le travail de l'Église. Dans l'Église de Dieu, mais souvent les gens, ils peuvent demander, mais qu'est-ce que je peux faire dans l'Église? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais bien souvent, nous pouvons laisser des autres faire le travail à cause de notre paresse, à cause de notre envie d'être comme les autres qui sont dans le monde. Beaucoup aujourd'hui viennent au culte le dimanche matin, soit pour juste satisfaire leur conscience religieuse, pour accomplir leur devoir chrétien, pour les réunions, pour augmenter leur connaissance intellectuelle. Certains pourront être même fiers d'appartenir à une église connue pour son enseignement ou la musique. Et pourtant, ils n'ont pas le cœur pour l'œuvre du Seigneur. Normalement, ce sera profitable que ce message soit le dimanche matin. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent le mardi. Ils veulent servir le Seigneur avec leur cœur. Allons-nous simplement nous asseoir, profitant des efforts des autres, les efforts de ceux qui ont travaillé dans le passé, parce que nos ancêtres chrétiens, ils ont travaillé, ils ont œuvré pour établir les églises, et nous sommes en train de réjouir, nous sommes en train de manger les fruits de leurs efforts. Et quelle est notre part aujourd'hui? Est-ce que nous allons simplement s'asseoir, réjouir le confort que nous avons, ou nous avons un travail à faire? les efforts de ceux qui travaillent maintenant et nous jouissons des bénédictions de la communion et l'adoration. Et si nous sommes des gens qui veulent simplement être assis sans rien faire, quel sera l'effet? Nous décourageons nos frères. Si nous n'allons pas travailler, si nous n'allons pas faire notre devoir en tant que chrétiens, en tant que membres de cette église, je parle de cette église locale, eh bien, que c'est facile à comprendre. Et si nous n'allons pas faire notre travail, nous allons décourager même ceux qui sont en train de travailler. Et en nombre 32, 7, Moïse demande, « Pourquoi vous voulez décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donnait ?» Oui, la question est directe. « Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne ?» Ce n'est pas dix tribus qui révoltent ou qui stagnent et deux qui avancent. C'est dix qui, la majorité, ils avancent. Mais il y en a deux qui sont en train de faire la résistance, qui sont en train de dire que non, on préfère être ici. Bien souvent, c'est le soi. Parce que moi, j'ai envie de ces choses. Parce que moi, je veux vivre comme d'une certaine façon. Parce que moi, j'ai des c'est le moi. Qui doit souvent porter seul le fardeau, facilement être épuisé en essayant de tout faire. Ou en anglais, on appelle ça burn-out. Certaines personnes, ils s'occupent de ce travail pendant longtemps, mais souvent seul, ils n'ont pas trouvé la main qui peut l'aider, qui peut... on ne trouve pas la personne pour donner un coup de main. Et ça peut fatiguer la personne. On devrait être sensible à ces choses. Le manque d'implication est tout aussi préjudiciable que l'opposition active. Proverbe 18:9, celui qui se relâche, c'est-à-dire le paresseux, dans son travail, est frère de celui qui détruit. Et le paresseux, ça peut causer beaucoup de dégâts dans l'Église. Celui qui ne veut pas faire quoi que ce soit, celui qui ne veut pas participer dans l'œuvre du Seigneur, il peut causer beaucoup de destruction et c'est presque invisible. On ne voit pas ces choses. On peut voir quelqu'un travailler, mais on ne peut pas noter quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui est en train de, dans un autre sens, en train de détruire le travail du Seigneur. Et Jésus lui-même, il a dit en Matthieu 12, 31, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Rappelez ce verset en Hébreux 10, je crois. N'abandonnons pas l'assemblée comme c'est la coutume des autres, de certaines. Donc nous sommes appelés pour assembler. Si nous ne sommes pas activement impliqués dans une phase de l'œuvre du Seigneur, c'est exactement ce que nous faisons, comme s'asseoir dans une voiture quand il est coincé dans une tourbière, au lieu de tirer ou de pousser, nous empêcherons sa progression. Et en étant inactif, ou n'est pas avancé, dans un convoi, si quelqu'un ne veut pas avancer avec des autres, ça devient un blocage. Il va bloquer des autres. C'est même un péché. Si nous ne sommes pas en train de faire ce que nous devrions faire, ça peut être un péché. Et quand quelqu'un il fait pas le service dans son église, ça affecte Christ. L'église est le corps de Christ. Et le Seigneur, quand il a rencontré Paul, il a dit, Paul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et Paul, Saul, il était surpris, il a dit, quand est-ce que j'ai t'ai persécuté? Il a dit, quand tu as persécuté mon église, tu me touches. Et quand nous péchons, quand nous aidons pas nos frères ou nos sœurs, nous péchons contre Christ. Et quand Ruben et Gad a réalisé l'effet de s'asseoir et de ne pas aller en guerre avec eux, et ça causait le dégât. C'est pourquoi Moïse les réprimande. Et nous avons une bataille spirituelle. Nous avons une bataille spirituelle. Et la question à poser, c'est que est-ce que nous sommes dans l'armée de Jésus-Christ? Et est-ce que nous sommes en train de le servir? Le terrain, c'est l'Église. Et le Seigneur, il veut nous amener à terre promise. Il a tout accompli. Il veut nous amener là-bas. Mais si nous allons regarder à droite et à gauche, nous n'allons pas avancer. Il y a des choses beaucoup attirantes. C'est des choses qui sont attirantes dans ce monde, qui peuvent détruire même notre vie. Et le service commence quand, même avant que le service peut commencer, et simplement quand nous sommes en train d'assister la réunion de l'Église. Et la parole de Moïse, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Si nous n'avons pas le cœur pour venir à l'église, ça peut être un dimanche matin, ou ça peut être un dimanche après-midi, ça peut être un mardi soir, ça peut être une autre réunion que l'église elle tient, mais si nous ne sommes pas conscients qu'il y a une guerre à combattre, et est-ce que nous allons rester où nous avons envie de rester? Ça peut être chez nous, devant la télé, ça peut être un terrain de foot, ça peut être un autre divertissement. Quand vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Donc, commençons avec l'assistance des réunions. Et parce qu'on ne peut pas négliger l'assemblée des saints. Et c'est pour notre bénéfice, c'est pour notre profit. Et aussi, quand nous sommes présents, même si nous ne parlons pas, et par notre simple présence, nous pourrons encourager des autres frères et sœurs. C'est sûr. Et dans le passage que nous avons vu, qu'ils ne voulaient pas avancer, ils voulaient s'installer dans un lieu, parce qu'ils ont vu des choses très attirantes. Et dans la vie de chrétien, quand ils ne veulent pas avancer, quand il stagne, ça veut dire qu'il veut aller en arrière. Dans le cœur, il y a toujours cette envie de retourner en Égypte. Vous savez, il y a des choses qui attirent encore pour retourner en Égypte. Ça peut être des choses comme l'oignon et le concombre, mais ça attire quand même. Et un arbre qui ne pousse pas, qui arrête de pousser, il est en train de pourrir à l'intérieur. C'est la mort. Et parfois, des chrétiens qui rétrogradent. Mais quand on conduit la voiture, si on veut rétrograder dans la boîte de vitesse, ça veut dire qu'on pense à arrêter. Je pense que c'est la même chose. Un chrétien qui rétrograde, qui va arrêter un jour. Vous savez, le roi David, on va terminer en lisant ce passage. 2 Samuel 11. On va lire les premiers trois versets. 1 Samuel 11. On va lire à partir de verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David a envoyé Joab. En campagne, c'est pour la guerre. Hein, avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Vous voyez la chute de David? Ce n'était pas sa place. Il ne devrait pas être à ce jour dans son palais. Mais David, il était mal placé. Et là que la chute de David a commencé. On n'a jamais pensé que David, il peut faire ce type de choses terribles. Mais il l'a fait. Et nous devrions faire attention où nous sommes. Est-ce que nous sommes avec le peuple de Dieu le mardi soir? Par exemple, hein, je ne veux pas vous culpabiliser du tout. Parfois, il y a des raisons valables où nous ne pourrons pas être là. Je suis tout à fait d'accord. Je vis la même vie comme vous. Je sais ce que c'est de travailler, rentrer, prenant le RER, métro, le bus et tout ça. Mais il ne faut pas il ne faut pas avoir cette culpabilité. Mais on est devant le Seigneur. Mais quand on peut, pourquoi on ne peut pas être là? Mais le Seigneur, il a raison de mettre le corps de Christ ainsi. Et nous avons besoin les uns les autres. Et la vie chrétienne, ce n'est pas fait puisqu'on peut vivre la vie chrétienne toute seule. On ne peut pas. On ne peut pas. Maintenant, on a beaucoup de moyens pour entendre les messages et tout ça. Mais avant tout cela, il y a la communion des saints, la communion des chrétiens, la communion des enfants de Dieu. Et on a tous besoin de ça. Et que maintenant, on devrait poser la question, où nous sommes? Est-ce que nous sommes avec le peuple de Dieu dans le lieu où Dieu veut que nous soyons, où nous sommes tous seuls en train de promener dans le toit de notre palais? Que le Seigneur nous aide à répondre à ces questions. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, avec toutes nos faiblesses, avec toutes nos paresses, Seigneur, avec toutes nos difficultés, Seigneur, nous venons au pied de ta croix pour te demander pardon, Seigneur, parce que parfois nous ne sommes pas là où tu veux que nous soyons là. Seigneur, parfois nous regardons par ici, par là, Seigneur, où nous sommes attirés. Et même comme le psaume d'Asaph, Seigneur, nous pensons aux gens du monde qui vit autrement. Et parfois nous sommes même jaloux d'eux. Seigneur, mais pardonne-nous, Seigneur. Et Seigneur, corrige nos voies. Seigneur, lave nos cœurs, Seigneur, par ton sang. Et rends-nous purs. Puisqu'on peut rendre nos pensées captives pour toi. Seigneur, nous te remercions pour cette église, pour cette communion fraternelle que nous avons avec nos frères et sœurs. Seigneur, nous te remercions pour ce corps de Christ. Seigneur, nous savons qu'il y a plusieurs parmi nous qui souffrent. Seigneur, ce soir, nous avons une pensée pour nos frères et sœurs. Ton église dans ce pays de Ukraine, où ils sont en train d'être bombardés. Nous prions aussi pour des chrétiens qui se trouvent en Russie, Seigneur, Seigneur, nous te prions que tu interviennes dans la vie de ces personnes. Et que, Seigneur, le sang que tu as versé sur la croix soit pas en vain. Que, Seigneur, que des âmes tournent vers toi. Seigneur, merci pour cette liberté que nous avons aujourd'hui. Aide-nous à rencontrer cette liberté, combien elle est précieuse, et faire le travail que nous devrions faire pendant qu'il est encore jour. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions, et pour ta seule gloire. Amen.